Le journal Xavier Demagny. Bonsoir Xavier.
Bonsoir Pierre, bonsoir à toutes et à tous. Se voir d'un peu plus près, s'approcher mais pas trop, les visites de nouveau autorisées dans les EHPAD du Bas-Rhin. Bonne nouvelle pour les familles comme pour les résidents qui vont pouvoir supporter un peu mieux le confinement. Les plus âgés outre-Manche et cette situation dramatique, le nombre de morts dans les maisons de retraite de Grande-Bretagne en cours de réévaluation, il pourrait augmenter considérablement. Au menu de ce 19h également, tant que le monde a les yeux tournés sur le coronavirus, arrestation de 14 opposants à Hong Kong, les concours des grandes écoles reportées ou suspendues, c'est compliqué pour les magistrats. Un concert géant pour les soignants, des stars planétaires, mais chacun chez soi, c'est ce soir avec Lady Gaga. Et puis la vie connectée de Christine Siméone. Les internautes s'amusent à réinterpréter les œuvres d'art version confinée.
Et puis au téléphone sonne, la sécurité sanitaire sur les lieux de travail, ceux qui travaillent en ce moment, alors que nous sommes soumis au confinement, et puis ceux qui vont reprendre le travail après le 11 mai, quels sont leurs droits? Y a-t-il une véritable sécurité sanitaire? Comment l'obtenir? Vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000.
Et juste avant cette deuxième partie du téléphone sonne, la météo de demain, c'est le monde à l'envers, des orages au sud et du soleil au nord.
France Inter.
Mieux qu'un sourire en vidéo, mieux qu'un regard à travers la vitre, les visites sont de nouveau autorisées dans les EHPAD du Bas-Rhin. La situation s'améliore dans le département, extrêmement touché par le virus ces dernières semaines. Très bonne nouvelle donc, qui redonne évidemment le sourire aux proches comme aux résidents. Mais si ces visites des familles peuvent avoir lieu, elles restent, Hélène Chevalier, encore très limitées.
Il ne s'agit pas de déconfiner les EHPAD, insiste Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin, mais de répondre à une demande récurrente des directeurs d'établissements. Ils doivent de plus en plus faire face à des personnes âgées qui supportent très mal la séparation avec leurs proches.
Surtout quand on sent qu'une personne âgée commence à déprimer, etc. Je crois que c'est important qu'elle puisse avoir son rayon de soleil en retrouvant sa famille. Alors bien évidemment, ce n'est pas les portes grandes ouvertes. L'enjeu, c'est bien évidemment de continuer à protéger la santé à la fois de nos résidents, mais aussi leur famille, mais de permettre néanmoins ponctuellement, dans du sur-mesure, de pouvoir faire des échanges sous réserve de bien protéger l'échange avec une vitre qui sépare les personnes.
Des visites au cas par cas et pour l'instant dans un petit nombre de maisons de retraite, car dans le Bas-Rhin, près de 2/3 des EHPAD ont été touchés, 318 résidents sont morts du Covid. Si la situation s'améliore progressivement, il ne faudrait pas que ces visites gênent le travail des soignants.
Le personnel est parfois complètement surchargé par l'accompagnement face au virus et donc il ne faut pas non plus rajouter des couches supplémentaires à nos équipes qui font un travail énorme.
L'expérimentation aura lieu dans un premier temps dans 3 ou 4 EHPAD volontaires avant d'être étendue progressivement à tout le Bas-Rhin et au département voisin, si cela est concluant.
Les plus anciens d'entre nous, en dehors des EHPAD, qui ne seront finalement pas confinés au-delà du 11 mai. Correction de l'Élysée hier après l'intervention d'Emmanuel Macron lundi. Pas de discrimination, mais la responsabilité individuelle invoquée par la présidence. Gardons à l'esprit que les statistiques jouent contre les plus anciens, alerte aussi un médecin du conseil scientifique. Se voir traité comme tout le monde, c'est un soulagement pour Francine, ancienne infirmière de 70 ans et en pleine forme.
Ouais, je pense que je l'aurais vraiment très mal vécu parce que effectivement, prenez deux personnes de 70 ans, une qui a le diabète, qui est obèse, qui a l'hypertension et tout ce qu'on veut, et une autre personne qui il n'y a pas longtemps encore allait tous les jours à la salle de gym ou faisait de la piscine. Bon, c'est pas le même état. Le moral est quand même pas mal en baisse parce que n'avoir que des contacts téléphoniques ou par visioconférence ou choses comme ça, bon, c'est quand même très frustrant. On en a besoin tous de ça, de s'exprimer, de voir vivre les autres et pas d'être chacun chez soi. J'espère qu'on nous laissera sortir, mais de façon raisonnable, à savoir, bon, effectivement, si jamais l'épidémie redémarrait, bon, évidemment que là, je serais tout à fait d'accord pour en revenir à un confinement sévère.
Francine qui fait aussi chaque semaine des courses pour sa voisine de 15 ans, sa cadette. Elle était au téléphone de Mathilde Dehimi. Le déconfinement et la gestion de la crise sanitaire, ce sera le menu d'Édouard Philippe et Olivier Véran demain après-midi. Conférence de presse du Premier ministre et celui de la Santé, mot d'ordre, pédagogie, méthode et explication. Mais pas encore de feuille de route précise pour l'après 11 mai. Les ministres sont tous au travail, chacun dans leur domaine, pour préparer la suite. Enfin, en bref, bilan définitif pour le Charles de Gaulle, plus de 1000 marins diagnostiqués positifs au nouveau coronavirus sur le porte-avions français. Deux enquêtes sont en cours sur la gestion de la situation et le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, sera l'invité du 6-9 demain matin sur Inter. Nous parlions à l'instant des maisons de retraite en France. La situation est aussi extrêmement tendue en Grande-Bretagne. Véritable hécatombe dans les établissements outre-Manche qui réévaluent le nombre de décès. Cela représenterait plus de 7000 morts, bien au-delà de ceux communiqués jusqu'alors par les autorités Haute-Soufi.
Combien y a-t-il réellement de victimes du coronavirus au Royaume-Uni ? Le chiffre de 15 464 ne prend en compte que les personnes décédées à l'hôpital. Pas celles qui ont succombé au virus à leur domicile sans avoir été testées. Pas non plus les milliers de personnes âgées qui ont trouvé la mort dans leur maison de retraite. Le Bureau des statistiques nationales n'a pour le moment enregistré que 217 décès dans ces établissements. Mais le ministre de la Santé admet lui-même que le nombre réel de morts dans ces résidences est plus important. Interrogé hier par une commission parlementaire, Matt Hancock a assuré qu'un décompte officiel serait publié très prochainement. En attendant, Care England, le plus grand organisme représentant les maisons de retraite dans le pays, estime que ce chiffre pourrait atteindre 7500 et pour cause, outre la fragilité des résidents, les personnels ne sont pas prioritaires dans l'attribution des équipements de protection et le dépistage de ceux présentant des symptômes n'était pas systématique jusqu'à il y a encore quelques jours. À Londres, Haute-Soufi, France Inter.
Deux victimes sur trois sont européennes. Notre continent reste celui qui est le plus touché par le coronavirus. Ce matin, l'Italie a signalé un nombre record de guérisons, mais l'Espagne a passé la barre des 20 000 morts. Le Portugal a lui réfléchi à restreindre l'accès à ses plages, généralement bondées quand viennent les premières chaleurs. Outre-Atlantique, le Canada annonce un mois de fermeture supplémentaire pour la frontière avec les États-Unis. Puis à l'échelle de la planète, on dénombre près de 155 000 décès au total.
Et Xavier Demagny, face à ces chiffres vertigineux, les dernières déclarations de Donald Trump paraissent insensées.
Une sorte d'appel à la rébellion face au confinement imposé par les gouverneurs démocrates de trois États. Libérer le Minnesota, le Michigan et la Virginie, a tweeté Donald Trump en lettres capitales, suscitant les réactions indignées de l'opposition depuis. Les États-Unis restent le pays le plus durement frappé par l'épidémie. Pendant que le monde a l'esprit occupé par le coronavirus à Hong Kong, où l'épidémie est d'ailleurs plutôt maîtrisée. Les autorités viennent de mener une vague d'arrestations. 14 opposants, dont plusieurs personnalités qui ont participé l'an dernier au mouvement de protestation contre le régime pro-Pékin. Sur place, Florence de Changy.
D'après la police de Hong Kong, les arrestations du jour sont liées à diverses manifestations qui ont eu lieu l'an dernier, certaines autorisées, d'autres interdites. Mais ce qui frappe dans ces arrestations, c'est qu'elles semblent ciblées très précisément des poids lourds du combat démocratique à Hong Kong. Parmi les 12 hommes et 2 femmes mis en examen, il y a Jimmy Lai, 71 ans, célèbre patron du groupe de presse qui publie notamment le très populaire Apple Daily, quotidien ouvertement anticommuniste. L'avocate spécialiste des droits de l'homme, Margaret Ng, 72 ans, à l'avant-garde de l'opposition au projet de loi d'extradition qui a mis le feu aux poudres l'an dernier, et le père du mouvement démocratique à Hong Kong, l'avocat de 81 ans, Martin Lee, ont également été mis en examen. La plupart ont été libérés sous caution aujourd'hui et tous devront se présenter au tribunal de première instance à la mi-mai. Le camp pro-démocratie a accusé le gouvernement d'ouvrir le feu contre l'opposition et de faire régner la terreur pour intimider. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
Des caméras thermiques dans les entrepôts Amazon aux États-Unis pour mesurer la température des salariés. 50 entrepôts américains concernés, ceux de l'Hexagone, eux, sont fermés jusqu'en début de semaine. Le géant américain du e-commerce sommet en France de restreindre son activité aux simples produits de première nécessité. Les entreprises françaises, pour le coup, font totalement partie du budget de crise voté par l'Assemblée hier. 110 milliards d'euros pour soutenir l'économie, financée des aides aux sociétés donc, mais aussi aux plus modestes et aux soignants. Budget exceptionnel refusé par les communistes et les insoumis, mais voté par l'opposition socialiste et par les républicains. À droite, justement, Éric Woerth assume son soutien à ce plan massif. Le député de l'Oise, pourtant plus connu avec la casquette de Père Larigueur.
Ça coûte très cher, c'est beaucoup beaucoup de dettes, mais c'est nécessaire. Alors oui, le plan il est assez complet, c'est-à-dire qu'il couvre à la fois les personnes qui sont les plus modestes, avec un peu de revenus supplémentaires. Ils couvrent les entreprises qui ont dû fermer, ils couvrent les personnes qui garde un contrat par le chômage partiel. Bon, il essaye d'être assez englobant, la petite entreprise à la personne en difficulté. Après, il y a toujours des trous, comme on dit, des trous dans la raquette. Alors, c'est bien, mais sauf que quand on a un trou dans la raquette, c'est évidemment dur à vivre. Alors, le gouvernement les complète au fur et à mesure des remontées de terrain. Les remontées de terrain, c'est les parlementaires. C'est pour ça qu'on a dit au gouvernement que nous, on était prêts à voter ces chiffres et évidemment à jouer le rôle du soutien à l'économie, bien sûr. Mais qu'en face, le gouvernement, lui, devait nous garantir une organisation de la reprise qui soit pas hésitante.
Le député LR Éric Woerth, interrogé sur France Info, ce budget de crise doit encore passer devant le Sénat. Et puis dans les rangs de la droite, toujours indignation qui peut paraître décalée en ces temps de lutte acharnée contre le virus, mais indignation quand même. Celle du député Philippe Gosselin, scandalisé de voir les commémorations du 8 mai 45 annulées. Il est ahurissant et inconcevable de ne pas célébrer la victoire sur le nazisme, écrit-il dans une lettre à Emmanuel Macron.
Xavier, la scolarité en France, confinement oblige et perturbe à tous les niveaux.
Et l'incertitude plane, y compris pour les grandes écoles. Tous les concours sont reportés en général au mois de juin. Cela concerne plusieurs centaines de milliers de candidats. Concours suspendu aussi pour l'ENM, l'École nationale de la magistrature. Et pourtant, Charlotte Piret, les juridictions attendent ces jeunes magistrats de pied ferme.
Il ne restait que 3 jours d'épreuve, 27 candidats à entendre sur les 350 de la promotion quand le confinement a été prononcé. Depuis, tout est suspendu. Olivier Laurent est le directeur de l'ENM.
Tant que les 27 ne sont pas passés, le classement ne peut pas être établi et donc la répartition des postes ne peut pas se faire.
Cette répartition, c'est celle qui détermine qui sera substitut du procureur, juge d'instruction ou juge d'application des peines à Versailles, Metz ou Nancy à la rentrée.
Les juridictions ont besoin de ces renforts en effectifs de magistrats et l'école nationale de la magistrature fera l'impossible pour que les magistrats puissent intégrer leurs fonctions le 1er septembre.
Pour cela, les derniers oraux devraient être organisés fin mai en visioconférence dans le pire des cas. Camille Martineau fait partie des derniers candidats.
On ne peut pas se projeter, on est dans l'incertitude. Après, vu la situation actuelle du pays, c'est un effort vraiment minime qui nous est demandé comparé aux situations réellement problématiques que vivent beaucoup de Français. Après, on sait pertinemment que quand on arrivera en juridiction, la situation sera nécessairement compliquée. Donc je pense qu'à l'arrivée, avec tous les magistrats, il y aura une grande solidarité et on recevra peut-être plus d'aide qu'en temps normal.
Et compte tenu du retard accumulé ces derniers mois dans les tribunaux, ces nouveaux magistrats auront très vite de quoi s'occuper.
Charlotte Piret, l'alerte du défenseur des droits sur les centres de rétention administrative. Il y a un risque indéniable de transmission du virus, tant pour les retenus que pour les personnels, estime Jacques Toubon. Il préconise leur fermeture pure et simple. Un policier mis en examen pour tentative de meurtre en Ile-de-France. Mardi dernier, ce fonctionnaire est intervenu chez un voisin qui faisait trop de bruit. Il a tiré et blessé ce voisin en question. Circonstance aggravante, il s'est mis en scène sur le réseau Snapchat avec 2 photos. La première avant son intervention, revolver à la ceinture. La seconde, après le coup de feu, les traces de sang visibles. Récit Jean-Philippe Degnaud.
Le commissariat de Noisy-le-Grand avait été alerté, mais personne ne pouvait se déplacer. Alors le policier a pris les choses en main. Il s'est rendu lui-même chez le voisin tapageur avec son arme de service. Il raconte ensuite avoir été menacé avec un couteau. C'est donc de la légitime défense, plaide son avocat. Maître Laurent-Franck Liénard regrette juste la mise en scène de cette intervention particulière sur Snapchat.
L'éclairage détestable du dossier, c'est cette photo avant et après. Donc avant, c'est une mise en scène idiote, potache, avec un groupe Snapchat qui était des collègues à lui. C'était idiot. Mais la photo d'après, il a écrit « j'ai tiré », c'est pour expliquer à ses collègues qu'il s'est passé quelque chose de grave. C'est pas du tout une façon de se mettre en valeur pour lui. Les témoins confirment qu'il était très concentré, qu'il est resté très professionnel dans l'opération.
Le policier est donc mis en examen pour tentative de meurtre. Il reste en service, mais il n'a plus son arme et il a interdiction de paraître à Noisy-le-Grand.
Jean-Philippe Degnaud, service enquête justice de France Inter à Bayonne. 3 personnes ont été arrêtées pour avoir menacé plusieurs infirmières. Des lettres de menace anonymes demandaient à ces soignantes de quitter leur domicile au motif qu'elles risquaient de contaminer le voisinage. Un couple a reconnu les faits. Le parquet a réclamé contre eux des travaux d'intérêt général. Ils ont désigné un troisième homme qui nie, lui. Il sera jugé en juillet. À l'autre opposé sur l'échelle de la solidarité, un camping du Tarn a annoncé qu'il offrirait une semaine de vacances gratuites pour le personnel soignant. Il suffira de présenter une attestation de l'hôpital dans lequel on travaille. Autre belle initiative, celle du cycliste britannique Geraint Thomas, vainqueur du Tour il y a 2 ans. Il a récolté près de 350 000 euros pour aider à la lutte contre le Covid-19. Le tout en pédalant pendant 36 heures dans son garage de Cardiff au Pays de Galles. Eux sont les invités surprises d'un concert qui rassemble déjà des tas de stars. Ah, je sais que ça vous fait plutôt plaisir, Pierre.
Keith Richards, Mick Jagger et les autres.
Les Rolling Stones, dernier sur la liste, longue liste donc des participants au concert One World Together at Home, tous ensemble à la maison, Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John ou bien la Belge Angèle, tous emmenés par Lady Gaga. Concert numérique et confiné, diffusé en direct d'ici une heure sur YouTube et le site de France Télévisions, dans la nuit aussi par France 2. Un événement mondial organisé par Global Citizen avec l'Organisation Mondiale de la Santé au profit de la lutte contre le Covid et pour les soignants. Mais Corinne Pellissier, inutile d'envoyer de l'argent ce soir, car toute la part philanthropique de l'événement a déjà eu lieu.
Ce sont déjà 35 millions de dollars qui ont été collectés ces dernières semaines pour le compte de l'OMS, l'association Global Citizen, et la chanteuse Lady Gaga, très active depuis le début de la crise, ont interpellé les donateurs, les gouvernements, fait de la retape partout, sur les plateaux télé, les réseaux sociaux, avec en fond toujours le même message, davantage d'entraide et de solidarité. L'argent réuni sera distribué en priorité aux associations locales et en direction des plus démunis. Le concert de ce soir, lui, n'est destiné qu'à créer du lien et susciter une prise de conscience collective, pas lever des fonds. Tous les artistes qui joueront, confinés chez eux, participent à leur demande, y compris les Rolling Stones, ajoutés sur le tard. 6 heures de live et d'intervention en perspective, un grand moment de rassemblement et d'unité mondiale, pas tout à fait inédit. En 85, Bob Geldof avait mobilisé 2 milliards de téléspectateurs autour du Live Aid, concert solidaire pour lutter contre la famine en Éthiopie.
Corinne Pellissier, les meilleurs moments de ce concert, Pierre, 6 heures de musique et d'intervention seront à vivre, à revivre demain soir entre 21h et 23h sur France Inter. Un mot du bilan du coronavirus en France. Dernier bilan livré par le ministère de la Santé. 19 300 décès en France depuis le début de l'épidémie, soit plus 642 décès depuis hier. Terminons ce journal avec votre vie confiné, certes, mais toujours très connecté. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir Xavier.
Depuis le début du confinement, Christine, fleurissent des tas de défis sur Internet et notamment des concours de réinterprétation d'œuvres d'art. Qu'est-ce que c'est ?
Vous avez sûrement vu passer ces parodies d'œuvres d'art très classiques, archi-connues, postées sur les réseaux sociaux. L'idée a été lancée le 14 mars par 3 jeunes femmes à Amsterdam. Pour poser comme la jeune fille à la perle, l'une d'entre elles a utilisé par exemple une gousse d'ail pour la perle. Cette idée a ensuite été reprise par le Rijksmuseum, toujours à Amsterdam, puis le Getty Museum aux États-Unis. Et en France, l'idée a également été reprise par plusieurs musées, par le Palais des Beaux-Arts de Lille, le Musée du Mans, celui de Montpellier ou encore celui de Nantes. Le CLIC France, le réseau des musées et lieux de culture en France, observe et quantifie ce phénomène. Alors, pourquoi ça marche ? La réponse de Pierre-Yves Lochon, le fondateur du CLIC.
Le tableau est de la pâte à modeler, que l'amateur d'art peut malaxer, réinterpréter, se réapproprier et même partager avec les autres. Les logiciels de retouche photo sont évidemment interdits et on n'utilise que ce que l'on trouve chez soi.
Alors voilà pour le principe, cette passion confinée s'étend jusqu'en Russie où un groupe Facebook créé il y a moins d'un mois compte près de 500 000 personnes. Alors Christine, c'est toujours la même idée, des reconstitutions d'œuvres de Léonard de Vinci ou du Caravage, mais seulement avec les objets dont on dispose à la maison.
Pourquoi tout d'un coup l'aspirateur, la cafetière, le gilet de pêche de Pépé ou la roue crevée qui traîne dans la cave arrive à inspirer certains et certaines ? Voici la réponse de Pierre-Yves Lochon.
Ce challenge est particulièrement intéressant aujourd'hui, car il offre au public une nouvelle expérience avec l'art. Dans un musée, on ne peut ni s'approcher de l'œuvre d'art, ni évidemment la toucher. Dans le monde numérique, on peut même la transformer. Cette démarche devrait inciter les professionnels des musées à transformer encore plus la visite en une expérience.
C'est sûr, les conservateurs risquent de grincer des dents, en tout cas pour les plus académiques. Mais cette idée d'inventer un autre discours que le leur sur les œuvres d'art n'est pas nouvelle. Elle va s'accentuer. Je vous conseille de participer à un autre concours un peu différent. Prenez votre smartphone, choisissez une œuvre qui vous tient à cœur ou qui vous a marqué, en bien ou en mal, et filmez-vous pendant 3 minutes pour en parler. Ça peut donner ceci.
Cher public, laissez-moi vous présenter Les Noces de Cana de Paolo Veronese.
Ou bien cela.
Sur cette toile, 132 personnages sont représentés dans des costumes et dans un décor typique de l'Italie du XVIe siècle.
Voici pour les exemples. Ce concours s'appelle J'aime cette œuvre. C'est sur le site j'aime-cette-œuvre.art. Et j'attends votre candidature, mon cher Xavier. Je suis dans le jury avec François Morel. Alors, soyez bon.
Le défi est lancé. Merci beaucoup, Christine. On va y réfléchir. Pierre aussi va y réfléchir. Tous les liens, évidemment, et les images de ces concours sont à retrouver sur franceinter.fr.
C'était le journal de Xavier Demagny. La météo, Jean-Michel Golinski de Météo France, c'est maintenant.
Un dimanche arrosé et parfois orageux dans la moitié sud et près de l'océan, plus sec et ensoleillé sur les régions de la moitié nord, avec un ciel pluvieux orageux du sud-ouest remontant vers le Poitou-Charentes et le Limousin, puis jusqu'aux portes de la Bretagne et de l'Auvergne en seconde partie de journée. Autour de la Méditerranée, du golfe du Lion à la région PACA, les pluies arrivant par la mer vont occuper le terrain une grande partie de la journée, avec un vent marin assez sensible sur le Roussillon. Notez que sur la Corse, les précipitations seront plus intermittentes. Plus au nord, l'humidité résiduelle va donner pas mal de grisaille pendant quelques heures en matinée, mais l'évolution sera favorable. Toutefois, le vent de secteur nord-est sera quand même assez sensible près de la Manche. Les températures partout largement positives la nuit vont grimper l'après-midi entre 23 et 25 degrés du Grand Est à Rhône-Alpes et 18 à 22 sur les autres régions.